Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous parlerons de la franc-maçonnerie dans ce magazine après la suspension en France d'un prêtre faisant partie d'une loge du Grand Orient. Nous verrons que le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé. Leurs principes sont considérés comme inconciliables avec la doctrine catholique et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Une première mondiale ce dimanche, une adoration eucharistique aura lieu au même moment dans tous les diocèses du monde, à commencer par Rome. Une occasion propice pour intensifier la célébration de la foi dans la liturgie et en particulier dans l'Eucharistie. Les chrétiens centrafricains vivent dans la terreur et les médias n'en parlent pas. Les témoignages sont accablants. Les rebelles islamistes commettent des violations en tout genre, pillages, exécutions sommaires, viols et tortures dans un climat d'anarchie totale. Un haut responsable du Vatican est au Liban, un pays de plus en plus menacé par la contagion syrienne. Vous entendrez le cardinal Sandri dès le début de cette émission. Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, achève une visite au Liban dont le ciel, a-t-il constaté, est parcouru par les nuages noirs de la guerre et de la violence qui touchent le Moyen-Orient. Le cardinal Sandri, qui doit ensuite se rendre en Jordanie, a ordonné deux nouveaux évêques maronites et visité un camp de réfugiés syriens. Hélène Détombe a recueilli son commentaire.
À tous, aux réfugiés, aux prêtres, aux sœurs, à tous, j'ai porté ce message du pape, la bénédiction, son mot de consolation, son mot d'espérance, surtout dans cette circonstance.
Vous venez donc de l'évoquer, vous avez visité ce dimanche un camp de réfugiés syriens. Quels sont les témoignages que vous avez pu recueillir, ceux qui vous ont le plus particulièrement marqué?
Tout près de la montagne qui sépare la Syrie du Liban, il y a un camp de réfugiés. Là, ils vivent en tente, il y avait, je pense, 200, 300 personnes. Je suis allé avec la Caritas Liban, j'ai parlé avec eux, j'ai visité les nouveaux dispensaires qu'ils tentent de faire, mais ce n'est pas encore fini, ils ont besoin de beaucoup de choses, il n'y a pas la cuisine, il n'y a pas de médicaments, j'ai parlé avec eux. C'est très précaire, la douleur se fait très grande en voyant tout ce déchirement de cœur et des corps, des gens. La majorité sont des enfants et des femmes qui habitent là. Et beaucoup ont tout perdu en Syrie. C'est une chose qui rompt le cœur, vraiment, de voir tout ça. Et de voir l'impuissance de ne pouvoir pas faire beaucoup de choses encore pour eux. J'ai porté 15 000 dollars pour eux. J'ai dit, prenez ça comme une caresse du pape François pour vous, qui vous pense, qui souffre avec vous, qui ne désirent autre chose que cette guerre finisse, et sont vraiment très reconnaissants pour l'Église catholique. Tous, la majorité, tous sont musulmans dans ce camp-là.
Aucune solution politique n'a été trouvée pour mettre un terme au conflit syrien, un conflit qui a de graves répercussions sur le Liban voisin. Vous avez pu le constater?
Oui, bien sûr, ici il y a une grande tension, parce qu'il y avait aussi les problèmes des élections, de la loi électorale, et vous savez, il y a aussi des déclarations qui peuvent apporter encore un petit peu de fait à tout ça, des tensions, et il y a eu ce lancement de missiles ou de roquettes, et tout ça fait monter la tension au Liban, où tous veulent la paix, la prospérité, la sécurité, la tranquillité, personne veut et entrer dans cette logique de la guerre.
On entend beaucoup parler d'ingérence, de vente d'armes en provenance de pays étrangers. Il convient aujourd'hui de mettre chacun face à ses responsabilités.
Hier, dans mon homilie, j'ai dénoncé le trafic d'armes et de tous ceux qui travaillent pour la destruction de la vie civile et de la vie sociale à travers le commerce des armes. Et oui, chacun doit prendre sa propre responsabilité, soit responsabilité individuelle, soit responsabilité nationale ou de quelque organisation qui puisse faire ça.
C'était le cardinal Sandri, préfet de la Congrégation pour les Églises orientales. Au Royaume-Uni, les représentants de différentes confessions religieuses, juifs, chrétiens, musulmans, hindous et sikhs, ont condamné le meurtre d'un militaire britannique tué à coups de couteau et de hachoir mercredi dernier en pleine rue. La ministre de l'Intérieur, Theresa May, a estimé que des milliers de personnes étaient menacées de tomber dans l'extrémisme dans le pays. L'enquête mobilise quelques 500 personnes. Olivier Bonnel.
Ce drame a fait craindre une hausse des tensions communautaires au Royaume-Uni. On constate depuis le meurtre une recrudescence des incidents visant les musulmans. Dans un communiqué officiel, les signataires membres de l'association Faith Forum for London invitent les croyants londoniens à rester unis en cette heure très difficile, alors que les extrémistes tentent de semer la division dans la ville. Cette démarche a reçu le soutien du président de la Conférence des évêques catholiques d'Angleterre et du Pays de Galles, Mgr Vincent Gerald Nichols, archevêque de Westminster. Nos religions, écrivent-ils, exaltent la sainteté de la vie humaine. Aucune injustice ne peut justifier une attaque aussi barbare. Il ne doit pas y avoir de place pour le terrorisme dans nos rues. Autre prise de position, Mgr MacDonald, le responsable de la Commission épiscopale pour le dialogue interreligieux, a invité tous les croyants à exprimer fermement leur refus de la violence et à s'engager ensemble en faveur de la paix. Même ton de la part du primat de l'église anglicane, Justin Welby, qui a exhorté les anglicans à décourager tout recours à la violence. Les deux principaux suspects, blessés sur les lieux du crime par la police, sont toujours hospitalisés. La presse britannique a révélé qu'un des deux hommes avait été arrêté en 2010 au Kenya, non loin de la Somalie, où opèrent les insurgés islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda.
Et en République centrafricaine, depuis le coup d'État, les chrétiens sont pris pour cible par les militants islamistes, ligotés, battus, contraints de remettre leurs biens pour avoir la vie sauve. L'agence Vatican Fides rapporte les propos d'un pasteur d'une église locale qui a préféré garder l'anonymat pour des motifs de sécurité. Il raconte que les rebelles de la Séléka parcourent le pays à la recherche de prêtres et de chrétiens. Les lieux de culte et les propriétés des chrétiens sont attaqués et saccagés. De nombreux chrétiens terrorisés ont abandonné leur maison à la campagne. Le vide sécuritaire profite aux rebelles. On dénombre actuellement 200 000 déplacés et 49 000 réfugiés dans les pays voisins. Les responsables chrétiens constatent avec amertume que la crise centrafricaine est ignorée par les médias et que la population majoritairement chrétienne se sent abandonnée par la communauté internationale. Deux rendez-vous importants vont marquer l'année de la foi dans les jours à venir. Le dimanche 2 juin à 17h, le pape François présidera une adoration eucharistique solennelle dans la basilique Saint-Pierre. Tous les évêques du diocèse de Rome seront présents. Au même moment, dans le monde entier, un temps d'adoration aura lieu dans les cathédrales de chaque diocèse et si possible dans les églises paroissiales. Le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation a demandé aux évêques du monde entier de s'unir à ce geste universel qui veut être le témoignage d'une communion spirituelle. Ce grand événement sera présenté ce mardi par Mgr Ino Fisichella dans la salle de presse du Saint-Siège. Le président du Conseil pour la nouvelle évangélisation parlera également d'une autre initiative importante, toujours dans le cadre de l'année de la foi, la journée de l'Evangelium Vitae, l'évangile de la vie, qui sera célébrée les 15 et 16 juin. Samedi après-midi, un pèlerinage sera organisé du château Saint-Ange jusqu'à la place Saint-Pierre de Rome, où le credo sera récité en plusieurs langues. Et dimanche matin, le Saint-Père célébrera la messe en plein air, place Saint-Pierre. Il s'agira de témoigner de la valeur sacrée de la vie, celle des personnes âgées, des malades, des mourants, des enfants à naître, de tous ceux qui souffrent moralement ou physiquement. L'occasion aussi de rendre hommage et d'encourager tous ceux qui se prodiguent pour venir en aide à ceux qui souffrent. Mgr Ino Fisichella invite les catholiques à se mobiliser à cette occasion pour que le monde entende ce message en faveur de la vie. La nouvelle évangélisation avait été au cœur des préoccupations pastorales de Benoît XVI. Prenant la relève, le pape François, à son tour, a exhorté à plusieurs reprises le clergé et les fidèles à sortir des églises et aller dans les périphéries, rappelant que l'église n'était pas une ONG, que sa mission première était de confesser et d'annoncer le Christ. Sortir des églises, quel sens donner à ces paroles? Écoutez la réponse de Mgr Salvatore Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.
Cela ne signifie rien d'autre que la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire il faut de nouveau reprendre l'esprit missionnaire. Alors quand on prend sérieusement la vocation du baptême, il faut comprendre que là, il y a la vocation à l'évangélisation. Aller au dehors, le Saint-Père il a employé aussi une autre expression très intéressante quand il disait « Le Christ à l'intérieur de notre cœur, il pousse pour sortir, pour aller au dehors. » Et cela, c'est la même image. c'est-à-dire aller toujours. Je pense que dans la crise que nous avons, il faut aussi vérifier qu'il y a la tentation de notre communauté d'être fermée en soi-même. Cela, peut-être, c'est une des causes de la crise que nous avons aujourd'hui. Et les mots, les expressions du Saint-Père nous poussent encore une fois à sortir pour aller annoncer l'Évangile. Mais il faut aussi être très conscient de ce qu'on fait. Parce qu'on peut annoncer le Christ si on l'a rencontré. On peut être évangélisateur si on connaît la parole de Dieu. Alors la capacité d'aller au dehors de nous-mêmes, de rendre notre communauté missionnaire, c'est aussi un engagement à se former. C'est-à-dire à être capable de connaître notre foi, les contenus de notre foi, et de donner à nous-mêmes la conscience d'un esprit missionnaire.
La nouvelle évangélisation, ça passe aussi et surtout par une vie chrétienne cohérente. Et le pape François insiste beaucoup sur ce point.
Bien sûr, on ne peut pas être autrement, parce que l'annonce de l'évangile se doit conjuguer avec la crédibilité de la vie, un style de vie qui est cohérente. Je veux rappeler la belle expression de Paul VI, dans l'Evangelii Nuntiandi, nos contemporains, ils n'écoutent plus les maîtres, mais ils écoutent les témoins. Et s'ils écoutent les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. Alors, il faut retourner avec ce mot, c'est-à-dire la catégorie du témoignage. Témoignage signifie vraiment que la foi devient vie et que la vie est cohérente avec la foi qu'on confesse.
Des propos recueillis par Manuela à Fidji. Le pape François s'est livré ce lundi matin à une nouvelle offensive contre la culture du bien-être qui nous anesthésie et nous rend peu courageux, paresseux et égoïstes. Il s'en est également pris à la séduction de ce qui est provisoire. Au cours de sa messe quotidienne célébrée dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, le souverain pontife a appelé à un examen de conscience sur nos richesses qui nous empêchent d'approcher Jésus et qui entravent notre route vers le royaume de Dieu. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, concélébrait avec le pape François. Pour le Saint-Père, il ne faut pas avoir peur des décisions définitives, aussi bien en ce qui concerne le sacerdoce que le mariage pour toujours. Il a par ailleurs regretté que tant de couples choisissent de n'avoir qu'un seul enfant pour des motifs économiques. En France, le curé de la paroisse de Megève a été démis de ses fonctions à la demande du Vatican en raison de sa persistance à faire partie de la franc-maçonnerie. Le père Pascal Vezin restera prêtre, mais sans droit d'exercer. À Megève, dimanche, la messe a été célébrée par le vicaire général du diocèse d'Annecy. Il a affirmé être venu accompagner cette paroisse dans l'épreuve. Dans une lettre aux paroissiens, l'évêque d'Annecy, Mgr Boivineau, détaille la procédure qui a été suivie. Après 2 ans de dialogue, il a fallu prendre acte de la décision du père Vezin de ne pas renoncer à sa double appartenance. Pour l'Église catholique, il y a incompatibilité entre appartenance à l'Église et à la franc-maçonnerie. Dans ses déclarations officielles, l'Église catholique juge que la franc-maçonnerie est non seulement responsable d'exercer une activité subversive à son égard, mais aussi de propager des idées philosophiques et des conceptions morales opposées à sa doctrine. Elle prône notamment le relativisme doctrinal et refuse toute idée de salut. Par ailleurs, le secret maçonnique est quelque chose que l'Église ne peut accepter. Dans un texte publié en 1983, signé par le cardinal Joseph Ratzinger, la Congrégation pour la doctrine de la foi affirme sans ambiguïté qu'on ne peut être catholique et franc-maçon. Ces derniers temps, pourtant, beaucoup de chrétiens font partie de loges maçonniques. La franc-maçonnerie serait-elle vraiment l'ennemi principal de l'Église catholique? Élément de réponse avec le philosophe et écrivain français Frédéric Lenoir, directeur de la rédaction du Monde des Religions.
Il y a eu beaucoup d'ennemis de l'Église dans son histoire. Je pense qu'au moment de la réforme protestante, la violence des échanges entre le pape et les principaux réformateurs, dont Luther, a été, à mon avis, plus violente que les échanges qu'il y a eu avec la franc-maçonnerie ensuite. Il faut rappeler que Luther considérait que le pape était l'antéchrist et que le pape considérait que Luther était le suppôt de Satan. Donc voilà, dès qu'il y a eu effectivement une série de scissions à partir de la Renaissance dans l'Église catholique, il y a eu des très violentes réactions de part et d'autre. Donc la franc-maçonnerie fait partie, dans cette longue histoire de l'Église, effectivement de cette méfiance mutuelle, mais c'est peut-être pas la plus violente.
Qu'est-ce qui fait que l'Église et la franc-maçonnerie sont à ce point incompatibles?
Au départ, la franc-maçonnerie est née dans la mouvance des Lumières, comme un mouvement déiste, mais qui accueillait aussi bien des chrétiens catholiques que protestants, que d'un déisme ne se référant pas à la Bible. Et donc c'était dès le départ quelque chose très mal perçu, évidemment, par le catholicisme, qui voyait une sorte de contre-église, d'église parallèle, qui singeait ses rituels, tout en développant la philosophie des Lumières, qui n'était pas du tout celle de l'Église de l'époque. Il y a eu effectivement, sous la Troisième République en France, une très forte hostilité entre l'Église catholique et surtout le Grand Orient, qui a développé un anticléricalisme puissant. Et c'est de là que date vraiment la cristallisation des haines entre catholicisme et franc-maçonnerie.
On parle de franc-maçonnerie au singulier, mais les loges sont très différentes. C'est quelque chose qui recouvre des réalités vraiment particulièrement diversifiées.
Oui, absolument. La maçonnerie a pris plein de visages. Entre la franc-maçonnerie anglo-saxonne, qui reste très spiritualiste, avec une conception finalement de Dieu très proche de celle des chrétiens, sans pour autant forcément admettre le dogme trinitaire. Et puis le Grand Orient, qui lui est une loge beaucoup plus laïque, dont la référence à Dieu n'est pas obligatoire et qui est composée à la fois de croyants et de non-croyants, et qui a développé historiquement, effectivement, on va dire, une opposition assez virulente au début du XXe siècle contre l'Église catholique. Donc, puis il y a plein d'autres loges qui sont un peu entre les deux, ce qui fait qu'il y a une très grande diversité. Et pour dire la vérité, les choses se sont beaucoup arrangées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont francs-maçons et de francs-maçons qui sont chrétiens.
C'était l'analyse de Frédéric Lenoir, directeur de la rédaction du Monde des Religions. Pour l'essayiste Maurice Caillé, aucun doute n'est possible. Il y a antinomie entre maçonnerie et christianisme. Il a été initié à la franc-maçonnerie dans l'obédience maçonnique du Grand Orient de France, où il est resté durant 15 ans, avant de se convertir au catholicisme. On l'écoute.
Ça me paraît d'ailleurs à la limite invraisemblable qu'un prêtre qui a une formation théologique et philosophique puisse se laisser berner pour aller jusque dans une loge maçonnique aussi anti-religieuse que le Grand Orient de France. Mais ce serait dans une autre obédience, ma surprise serait la même, parce qu'il y a une incompatibilité philosophique, une contradiction radicale entre la religion catholique et puis la philosophie maçonnique.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que le christianisme et la franc-maçonnerie sont irréconciliables ?
Il y a pas mal d'arguments. D'abord, le christianisme annonce la vérité, avec un grand V, en tout cas sur les relations entre l'homme et Dieu. Et par contre, la maçonnerie dans son ensemble dit qu'elle recherche la vérité, mais que cette vérité est introuvable et que toutes les vérités sont valables. C'est le relativisme qui, d'ailleurs, a envahi le monde moderne d'une manière extraordinaire.
Beaucoup de chrétiens font partie de certaines loges maçonniques. Est-ce que, justement, le fait que certaines loges insistent sur les inégalités, la lutte contre les inégalités, soutiennent des valeurs et portent des valeurs humanistes, est-ce que cela n'est pas un point de rencontre possible entre l'Église et la franc-maçonnerie ?
Oui, mais les principes de la maçonnerie sont tout à fait séduisants. C'est pour ça que j'y suis entré. C'est très séduisant. Liberté, égalité, fraternité, solidarité. Mais il faut avoir vécu, comme moi, 15 ans dans les loges pour se rendre compte que ces principes sont des leurs. D'abord, la liberté n'est pas du tout la même que celle de la conception chrétienne. Pour un chrétien, la liberté a été accordée par Dieu aux hommes pour aller vers le bien et pour aller vers l'amour, tandis que les maçons considèrent que la liberté est un droit personnel qui leur permet de faire tout ce qui est légal, sans aucune contrainte et sans aucune référence, bien sûr, à une autorité divine supérieure. Si vous comparez, par exemple, les œuvres caritatives de la maçonnerie et celles de l'Église catholique, c'est de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Il n'y a pas de comparaison possible.
L'Église et la franc-maçonnerie, un sujet réalisé par Olivier Tosserie. 120 supérieurs généraux de congrégations masculines ont participé à leur assemblée générale à Rome sur le thème de l'autorité dans la situation actuelle, un thème difficile pour des mentalités qui évoluent rapidement. L'échange a été particulièrement vivace, riche et intense. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse www.radiovaticana.va, sur notre page Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter, ainsi que sur vos tablettes et smartphones grâce à notre application en français. Merci de nous avoir suivis.